Il est 6h20, comment vivre avec peu d'oxygène? Pour répondre à cette question, je vous emmène dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada au Pérou, située à 5300 mètres d'altitude. Là-bas, les habitants vivent dans des conditions extrêmes. Des scientifiques français sont actuellement sur place pour essayer de soigner le mal des montagnes dont souffre la population. Bonjour Samuel Vergès.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INSERM à Grenoble au sein du laboratoire Hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire. C'est vous qui dirigez cette mission appelée Expédition 5300. C'est quoi l'objectif de cette mission ?
Alors, c'est un programme de recherche qui a débuté l'an passé avec le but de comprendre de fait comment l'organisme humain est capable de vivre avec moitié moins d'oxygène dans cette ville de la Rinconada qu'au niveau de la mer. Et puis comprendre également pourquoi certains quand même de ces habitants, même s'ils ont des niveaux d'adaptation extrêmes au manque d'oxygène, pourquoi certains sont malades. Et cette année, en 2020, la suite du programme, c'est comment les soigner.
De quoi souffrent-ils exactement ?
Alors, c'est ce qu'on appelle le mal chronique des montagnes, qu'il faut distinguer du mal aigu des montagnes que les trekkers, etc., connaissent dans nos villes. Le mal chronique des montagnes, c'est un système, un phénomène d'usure de l'organisme du fait du manque d'oxygène, qui passe en particulier par une production exagérée de globules rouges et une viscosité du sang très élevée.
Et ça se traduit par quoi ? Ils ont mal à la tête, des choses comme ça ?
Voilà, tout à fait. Donc, cette viscosité du sang très élevée, elle a un certain nombre de conséquences au niveau cardiovasculaire, au niveau cérébral, avec des symptômes comme des palpitations, du mal de tête, des problèmes de microvasculaires. Donc, c'est tout un faisceau de symptômes qui caractérise ce mal chronique des montagnes et qui est une vraie question de santé dans ces villes de très haute altitude.
Est-ce que le corps humain peut s'adapter sur le long terme à de telles attitudes ? Est-ce qu'il peut y avoir une adaptation génétique ?
Alors là, on a vraiment des populations qui sont particulièrement bien adaptées à ce manque d'oxygène, c'est ce que l'on appelle l'hypoxie, avec des adaptations génétiques à la clé depuis des milliers et des milliers d'années. Mais là, dans cette ville, en fait, qui existe du fait d'une mine d'or, on est vraiment au maximum de ce que l'organisme humain peut tolérer malgré des adaptations au cours de milliers et de milliers d'années. Donc, ces individus sont à la fois excessivement bien adaptés au manque d'oxygène, mais malgré tout, pour une grande partie, sont malades du fait de ce manque d'oxygène. Donc, on est vraiment limite de ce que peut faire, aux limites de l'adaptation de l'organisme humain. Ouais.
Alors, vous le disiez, vous avez déjà mené des tests, des expériences l'an dernier. Est-ce que vous en avez déjà tiré des leçons ? Est-ce que vous avez déjà des résultats ?
Oui, donc l'année dernière, on a vraiment cherché à comprendre à la fois comment l'organisme humain peut s'adapter à de telles conditions, moitié moins d'oxygène, comme je le disais, et puis surtout pourquoi à peu près un quart de la population de cette ville est malade en fait de ce manque d'oxygène. Et donc on a vu comment, en particulier, comme je le disais tout à l'heure, ces caractéristiques sanguines, ces globules rouges sont à la fois nécessaires en très très grande quantité, mais au bout d'un moment rendent le sang très très visqueux avec des conséquences cardiovasculaires, neurologiques. Et donc cette année, sur la base de ces résultats, de la compréhension des phénomènes biologiques d'intolérance à l'hypoxie chez certains habitants, on est revenu avec des pistes thérapeutiques qu'actuellement on est en train de tester avec les personnes malades dans cette ville.
Pour essayer de trouver des solutions pour améliorer leur vie, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a certains habitants qui, encore une fois, malgré toutes les adaptations qu'ils ont mises en place au fil des générations, présentent en fait des phénomènes pathologiques. Et donc, aujourd'hui, cette population, elle n'a en fait aucun encadrement médical. On ne saurait même pas quel type de traitement, quelle prise en charge leur proposer. Donc, on a mis en place un véritable essai clinique pour voir si on peut trouver des pistes thérapeutiques, des prises en charge qui pourront être bénéfiques à ces habitants de très haute altitude malades.
Mais ça pourrait être quoi, par exemple ? Plutôt des médicaments, plutôt des masques à oxygène, des choses comme ça ?
Alors aujourd'hui, c'est des médicaments qu'on teste sur cette population. Donc l'oxygène, c'est quand même difficile. Il faut savoir qu'il y a plus de 50 000 habitants dans cette ville. Donc c'est de proposer de l'oxygène à très grande échelle, c'est très compliqué. Redescendre de temps en temps, c'est une piste aussi, mais bon, pour les raisons économiques, logistiques, c'est difficile. Donc on est en train de tester certains médicaments qui sont relativement disponibles sur le marché, qui pourraient être accessibles à terme aux personnes malades là-haut. Et on est en train de voir si on arrive à améliorer leur état de santé suffisamment pour pouvoir à terme leur conseiller ce type de traitement.
Il y a quand même peu de gens dans le monde qui vivent à cette altitude, à part pour les habitants de la Rinconada. À quoi peut servir votre étude ? Est-ce qu'on peut en tirer d'autres enseignements pour d'autres types de personnes ?
Oui, alors les conséquences, il y a quand même une centaine de millions d'habitants dans le monde qui habitent à plus de 2500 mètres d'altitude, donc il y a un vrai enjeu de santé pour ces habitants-là.
Parce que c'est dès 2500 mètres qu'on sent les effets du manque d'oxygène ?
Oui, voilà.
Eux, ils sont à 5300, mais dès 2500, ça peut poser problème ?
Voilà, tout à fait. Et on a déjà des gens qui peuvent, dans des villes d'altitude déjà élevée quand même, mais à 3000, 4000 mètres, on a déjà un certain pourcentage de ces populations-là qui présentent des phénomènes pathologiques. Donc là, il y a un enjeu de santé pour trouver des solutions thérapeutiques. Mais après, plus largement, dans nos hôpitaux, dans nos villes, on a certaines pathologies comme des maladies respiratoires qui se caractérisent également par un manque d'oxygène, c'est-à-dire du fait d'un poumon malade. Dans nos villes, on a des personnes qui sont aussi exposées à un manque d'oxygène. Et donc comprendre comment des habitants de très haute altitude arrivent à vivre ou tombent malades du fait du manque d'oxygène, c'est aussi éclairer, ouvrir des pistes de prise en charge, de traitement de nos malades, en particulier respiratoires, dans nos hôpitaux.
Est-ce que ça peut être utile aussi à des sportifs ?
Alors oui, c'est vrai que l'altitude est utilisée pour les sportifs, pour l'entraînement, mais c'est des altitudes quand même beaucoup plus intermédiaires, de l'ordre de 2000-2500 mètres. Donc là, c'est une utilisation de la moyenne altitude, je dirais. Là, on est dans des altitudes beaucoup plus élevées. Par contre, ça peut éclairer, disons, tout ce qui est la problématique des alpinistes, des trekkers qui peuvent monter à plus haute altitude. Et puis, ça a éventuellement des éclairages plus originaux en particulier dans la conquête spatiale où se pose la question de la tolérance à une vie avec moins d'oxygène. Donc il y a des applications en fait qui sont assez multiples au-delà même de ces seules populations de haute altitude.
C'est difficile de monter ce genre d'opération ?
Oui, je pense qu'on peut le dire, c'est difficile. Enfin, en étant responsable de ce programme de recherche, je peux dire que c'est quand même très complexe. On est soumis à des aléas de tout genre, malgré un peu d'expérience et malgré... une anticipation maximale, on est soumis à des aléas, que ce soit matériel, humain de notre côté, puisqu'on est soumis en fait au même environnement hypoxique que cette population-là. Et puis cette population, elle vit dans des conditions vraiment particulièrement extrêmes. On n'est pas du tout dans un cadre de laboratoire scientifique ou d'hôpital universitaire. Donc on est tout le temps en train de s'adapter à des conditions très très particulières. Donc oui, c'est vraiment lourd à organiser d'un point de vue logistique.
Vous-même, vous avez du mal à respirer par exemple ?
Oui, complètement. Nous, là, on est vraiment, on s'use aussi, entre guillemets, au bout de quelques semaines présents dans cette ville. On vit, en fait, dans les mêmes conditions que ces habitants de très haute altitude, avec, par contre, aucun bagage génétique qui nous permet de tolérer une telle altitude. Donc, on travaille beaucoup, on est soumis aux mêmes conditions environnementales, aussi à des conditions sanitaires très, très minimes, je dirais minimales. Du coup, c'est sûr qu'on finit plus ou moins malade et plus ou moins fatigué, nous aussi. Heureusement, nous, on peut redescendre. C'est ça la différence.
Juste une dernière question rapide. Est-ce qu'il y a aussi des animaux et de la végétation à cette altitude ?
Alors là, comme c'est une mine d'or, la montagne est en fait ravagée, retournée, je dirais,
donc il y a plus rien.
L'activité minière. Donc il y a à peu près rien au niveau végétaux, rien au niveau des animaux, non plus. Donc en fait, il y a une espèce de cordon de véhicules tout-terrain, de camions qui les alimentent avec de la nourriture, bon, de qualité souvent moyenne. Mais non, il n'y a pas de cultivateurs ou autres sur place.
Ouais. Merci Samuel Vergès, chercheur à l'INSERM de Grenoble, et c'est vous qui dirigez cette mission appelée Expédition 5300 mètres. Vous étiez l'invité du 5-7 en direct du Pérou, de la Rinconada, située à 5300 mètres d'altitude.